Et si, dans les résolutions de 2025, on pensait davantage à la base, nous nourrir sainement, tout en faisant vivre l'économie locale. Parler du monde agricole, des paysans, de tous ces invisibles qui remplissent nos assiettes et entretiennent les territoires, paraissait être une évidence. Des GAEC, des collectifs de paysans, il y en a un peu partout sur le territoire. Une fois n'est pas coutume, la Voix du Colibri consacrera les deux prochaines émissions, celles de janvier et de février, en allant du producteur vers le consommateur. Dans cette première partie, je vous emmène en immersion dans le monde des pionniers du collectif et du GAEC Radi & Co, installé à Montflour. Ces colibris sont toujours en mouvement et font largement leur part, ne serait-ce que dans nos assiettes, pour rendre le monde vraiment meilleur. J'ai demandé à chacun des colibris du GAEC de choisir un artiste, un morceau de musique qui les touche à l'âme. Caravane de Bill Keys, c'est le morceau choisi par Marco, l'un des pionniers du projet Radi & Co, l'éleveur et producteur laitier du GAEC, du rythme, le don de soi, et nous voilà embarqués dans son univers.
Là les copines.
La rencontre avec toutes les vaches.
Oui.
Je vais éteindre.
Je ferme. Un cornadis sur deux. Comme ça, elles ont de la place.
D'accord. Ok.
Certaines arrivent à manger côte à côte, mais autrement, si elles sont pas de la même bande, il faut qu'il y ait une place de libre entre chacun. Autrement, elles sont désagréables. Un meringue. Voilà, alimentation. Les vaches, elles mangent de l'herbe. Donc, on a des prairies qui sont implantées et en rotation avec les céréales. Donc, le temps où c'est en prairie, déjà, le sol, on le travaille plus. Donc, il se repose, il se reconstruit un peu. Et en plus, les vaches, elles bousent. En même temps qu'elles mangent, elles bousent. Donc, elles font tout le boulot d'entretien et de fertilisation. Et puis, en hiver, elles viennent manger ici le matin et le soir. Et dans le creux de l'hiver, elles dorment ici. Donc, elles accumulent dans la litière, là, lors d'éjection. Et ça, c'est du fumier qui va servir au maraîchage. Et puis, elles sont aussi là pour entretenir la belle prairie en face. Là. C'est des espaces qu'on ne veut pas cultiver. Il n'y a pas de sol. C'est très séché ou alors très en pente. Enfin, elles, là-dedans, elles arrivent à... C'est assez pour elles pour grandir, faire des veaux.
Donc elle reste enfermée très peu de temps dans l'année.
Oui, il y a des années où elle dort en bâtiment pendant peut-être 2 mois ou 3 mois, mais elle sort la journée. Là, je donne du foin à tout le monde. On leur rajoute en hiver là des betteraves pour leur apporter de l'énergie.
Hein. Alors, les betteraves, vous les faites ici?
Ouais.
Vous les avez ici, hein. Le foin, tout est d'ici, là.
Ouais, elles sont derrière toi.
Ah, pardon, j'avais pas fait gaffe.
Parce que t'étais attirée par les vaches.
J'étais attirée par les vaches et puis j'ai regardé au loin, tu sais. C'est magnifique, hein.
Ouais, bah, on est dans un bel endroit.
Oh là là.
Les bords de la rivière, là, c'est très encaissé. C'est l'eau qui a fait toutes ces vallées, là, c'est très joli.
C'est magnifique, là, votre petit nid, là. Alors, comment il s'appelle, le petit dernier?
Verni.
Bonjour, Verni.
Verni, c'est le petit de Mascara, de Rimmel. Et Rimmel, c'est la fille de Mascara. C'est la famille maquillage.
C'est toi ou collectivement, vous décidez des noms?
C'est celui qui trouve le veau, elle. Elle est née le jour de l'anniversaire de mon petit garçon, donc c'est lui qui devait choisir. Mmh. Et comme c'était l'année des U et que lui voulait l'appeler Pupille, ben il l'a appelé U-Pupille. Et le lendemain, Ursuline, elle est née. Et il y avait une stagiaire qui vivait en Belgique, près de la place des Ursulines, qui est une place populaire à Bruxelles. Et donc elle l'a appelé Ursuline.
U-Pupille et Ursuline. Okay.
Et par exemple, le petit là, qui a des drôles de couleurs, il s'appelle Vegan. Et c'est le fils de saucisse. Après, on essaye de respecter la lettre, la première lettre pour l'année. Là, c'est V cette année. Et puis, des fois, soit un sens, soit une terminaison qui rappelle la mère.
D'accord.
Pour se souvenir des filiations comme ça. Les noires et blanches, c'est des bretonnes pinoires. Elles, c'est une jerseyaise. Et celles qui sont toutes noires, t'en vois quelques-unes. Elles, c'est des croisées entre jerseyaise et bretonne. Et cette ferme-là qui nous a offert les premières jerseyaises, c'était... une ferme collective dans le Perche qui a été un repère pour nous, tu vois. Il y a des choses où on a pris le contre-pied par rapport à eux. Mais ils faisaient exactement les mêmes productions que nous. Ils étaient à peu près le même nombre et les mêmes valeurs un peu. On avait envie de changer la société. Et l'agriculture, c'était un levier de base. Manger, tu vois, les besoins fondamentaux, quoi. Manger, se nourrir.
À la base,
ouais.
Tu étais fils, descendant d'agriculteurs,
non.
Ou tu avais de la famille qui bossait dans l'agriculture.
Non, aucun d'entre nous n'a de lien à l'agriculture. On était urbain, urbain de la Mayenne, hein, urbain relatif.
Et lorsque je vois Marco s'activer auprès des vaches, aucun doute, je me dis que l'urbain de la Mayenne est devenu un vrai paysan, toujours en mouvement. Donc pourquoi ce choix de Bretonne Pinois ?
J'ai découvert cette race-là dans cette ferme collective là qui était dans le Perche, le collectif étendu il s'appelait. Un peu coup de cœur pour ces gens-là, et par ricochet je pense coup de cœur pour cette vache-là. Mais après il n'y avait pas que ça, et aussi le fait que politiquement ça me parlait, c'était la race la plus répandue en France il y a un siècle. Il y avait 500 000 animaux. Et dans les années 70, suite à l'industrialisation de l'agriculture, il y en avait plus que 300 répertoriés, quoi. Et donc ça, c'était dans les années 70. Il y a un gars de l'INRA et quelques éleveurs bretons qui se sont dit on peut pas la laisser disparaître. Elle allait disparaître, quoi. Et donc ils ont organisé un plan de sauvegarde. Et maintenant, elles sont 3000. Donc elles sont revenues. Et pourquoi ils ont eu envie de la préserver? Déjà pour pas laisser disparaître la biodiversité dans les élevages, mais aussi parce qu'elle a plein de qualités. C'est la plus petite race française, donc elle est très petite, elle s'est bâtie sur les sols pauvres, acides en Bretagne. Elle sait se nourrir de pas grand-chose, c'est ça qu'on peut lire entre les lignes, quoi. C'est que du fourrage grossier, c'est suffisant pour elle pour élever des veaux, grandir, être en bonne santé. Ça, c'est une grande qualité, quoi, sa rusticité, sa capacité à transformer des fourrages grossiers dans des landes ou tu vois, des vieilles prairies permanentes. Où la nourriture est pauvre.
Derrière le paysan, je découvre aussi le militant. Tu fais partie des pionniers du GAES.
C'est vrai, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps.
Tu peux nous raconter ta part, comment es-tu arrivé dans cette aventure?
Moi j'ai rencontré par hasard l'agriculture quand j'avais 20 ans, parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé de m'héberger quelques jours. C'était un moment où moi j'étais dans un état d'esprit de quelqu'un qui a 20 ans, c'est-à-dire que je cherchais ma place dans le monde et j'avais un peu de mal à voir comment ça pouvait être chouette. Ma maman était famille d'accueil, donc depuis que j'avais 10 ans, on accueillait des petits, des moins de 6 ans, et en urgence, donc on attendait des décisions de tribunal. Donc ça a généré beaucoup de colère autour de mes 15 ans, j'étais très en colère. Et puis vers 20 ans, j'étais toujours en colère, mais avec aussi une recherche un peu de sens. Et donc je gratouillais ma guitare avec un sac à dos, c'était un peu ça mon quotidien. J'avais quitté le monde scolaire après des études de chimie où je voyais pas du tout quelle place je pourrais prendre là-dedans, avec laquelle je me sentirais bien dans mes baskets. J'avais un besoin de justice un peu exacerbé, je pense, par cette histoire familiale. Donc ces gens m'accueillent dans leur ferme pour quelques jours, et puis ils avaient besoin d'un coup de main pour le week-end d'après, parce qu'ils devaient partir tous ensemble pour un mariage. Et donc dans la semaine, ils m'ont montré comment traire les vaches, m'occuper de l'autre troupeau, conduire le tracteur. Et en 5 jours, comme ça, ils m'ont laissé leur ferme. Donc c'était une preuve de confiance très forte. Et puis moi, j'ai eu un déclic à ce moment-là de me dire « Waouh !» Ce mode de vie est tentant. Et donc je suis resté finalement 2 ans. Donc de mes 20 ans à mes 23 ans, première expérience de collectif, en se disant, en fait, ensemble, on est capable de faire des trucs incroyables. Ensemble, on a du plaisir à se découvrir. Ensemble, on est obligé de se remettre en question. Je voyais comment ça me nourrissait, comment ça me faisait grandir. La pratique collective et ce que ça amène chez les gens, c'était majeur dans mes envies et puis dans mes convictions, dans mes croyances de comment le monde il peut être mieux demain. C'est déjà en apprenant à faire ensemble. Mais ouais, je pense collectif et je pense autonomie. Alors autonomie dans tous les sens du terme, quoi. Ça veut dire être capable de, par soi-même, prendre en charge ses propres besoins et de la collectivité qui t'entoure. Ce matin, tu vois, j'étais avec les lycéens là, et qui se sentent impuissants pour que le monde soit meilleur, soit moins pire. Et moi, j'ai un sentiment de puissance un peu là. Ouais, je ressens qu'on peut faire bouger des choses. Et alors, en toute modestie et en ayant conscience du petit impact, mais c'est l'impact que moi, je peux avoir. Et donc ça fait que je trouve du sens dans ce que je fais. Je suis en action pour essayer de donner de nouvelles directions à la société, mais en fait à la communauté qui m'entoure. C'est des petites choses, mais qui sont à ma portée. Et du coup, c'est en ça que j'ai l'impression de grandir ou de me réaliser en tant qu'humain. Je suis content de ce que je fais.
C'est pas trop dur physiquement, ce choix-là, ce choix de vie?
Si, c'est dur.
C'est
dur, il y a des moments...
Des moments de doute?
Des moments de doute, carrément. Alors, pas de doute de l'intérêt de le faire, mais de doute sur combien de temps je vais être capable de le faire. y a plein de joie, mais c'est aussi dur, quoi. Et, mais tu vois, j'ai quand même des bonnes conditions de vie pour un éleveur. Parce que le mardi, tu vois, j'arrive à 9h, c'est pas moi qui fais la traite. Le jeudi, c'est pas moi qui fais la traite le matin non plus. Et je travaille un week-end sur 5. Donc c'est incomparable par rapport à d'autres fermes. Déjà, je suis très content de ça. Et puis, comme j'ai un besoin de justice qui est fort et de sens, ça satisfait ce désir-là. Tu vois, j'ai pas du tout l'impression d'avoir sacrifié ma vie. Tu vois, pas du tout dans ce sens-là. Par contre, de donner de soi aussi aux autres, c'est aussi quelque chose qui nourrit. Il faut que du monde le fasse. Du coup, des centaines de milliers de paysans. Et ils ne le font pas que par plaisir. Pas que par passion, ils le font parce qu'il faut casser la croûte et qu'il y a un enjeu vital.
De la salle de traite à la fromagerie, il n'y a qu'un pas. DJ Hyperactive, c'est l'artiste choisi par Steve, paysan fromager et pionnier lui aussi du GAEC. Il faut bien reconnaître que l'adjectif hyperactif lui correspond parfaitement. Steve m'accueille avec beaucoup de chaleur et de générosité.
Ok. Ça va aller ?
Ouais.
Impeccable. Donc là, on se trouve dans la partie qu'on appelle le sas d'entrée. C'est là où on se change, là où on dépose nos vêtements de dehors et on enfile les tabliers, les bottes pour l'intérieur. Il va faire chaud à l'intérieur. T'es prête ?
Ouais. Allez,
prête
de...
Oui, tu peux, ouais.
Ouais.
On est dans la laverie, la partie laverie. Et le premier truc qu'on fait en rentrant,
là, je me lave les mains. Je me lave les mains plusieurs fois par jour.
Et je pense que j'ai les mains et les ongles les plus propres de la ferme, j'imagine. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de l'égouttage de fromage lactique. Dans la gamme qu'on propose aux gens, il y a des fromages blancs, des fromages à tartiner. Ces produits-là, ce sont des fromages lactiques. Donc on les fait la veille et le lendemain, on les égoutte dans des sacs, dans des toiles. On va faire maintenant.
Mais vous faites aussi des fromages à croûte ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a une gamme de fromages qui est assez diversifiée. C'est un choix qu'on a fait au début pour pouvoir toucher le plus de monde économiquement et gustativement. On voulait aussi que chaque personne qui vienne au radis à la ferme, enfin, qui achète nos produits à travers les paniers dans nos armes, puisse trouver des légumes, enfin trouver une proposition alimentaire assez variée et qui a du pain en passant par les légumes et le fromage. Voilà. On propose un fromage de type pâte molle, inspiré des recettes affinées, enfin, qui pourraient être dans la famille des camemberts, on va dire quoi. Qui utilise les mêmes procédés de fabrication et d'égouttage. Et on propose aussi une tome, une pâte pressée non cuite, qui se fait dans ce gros chaudron qui est derrière toi, là, le gros chaudron en cuivre de 300 et quelques litres. C'est là-dedans qu'on fait la tome et qui est brassée à la main.
Mais alors, j'ai juste une question, du coup, tu as une zone de stockage pour les séchages, j'imagine,
oui,
comme on voit. Enfin,
exactement. On a une cave.
Vous avez une cave.
Voilà. Ouais. Donc là où on se trouve, là, alors, on est arrivé par l'endroit où on pose nos vêtements, voilà, le sas d'entrée, on appelle ça. On a été tout droit et là on arrive sur cette pièce qui est faite en long, qui ressemble à un container un peu, avec du sol carrelé blanc et puis ce qu'on appelle donc, des panneaux sandwich. Voilà, ça c'est pour répondre à des normes, hein, c'est quelque chose de facile à nettoyer, aéré, avec des systèmes d'aération, avec des bouches d'évacuation d'eau au sol. Voilà, c'est quelque chose de facile à nettoyer, c'est vraiment la base du laboratoire. Ensuite, là ce que tu vois là-bas, c'est petit lactoduc, le tuyau qui passe de l'autre côté où tu étais ce matin, tu étais dans la salle de traite. En fait, c'est le mur qui est là, qui nous sépare de la salle de traite. Et le lait arrive ici, et il arrive soit dans le tank à lait, c'est une espèce de grand frigidaire à lait qui tient le lait au froid, ou soit dans ses bassines quand je veux le transformer, quand je veux en faire un fromage. Et ensuite, dans ce laboratoire, mais là on ne voit pas parce que je ne t'ai pas fait visiter, mais d'ailleurs on va le faire. Donc là, tu as vu la laverie où on vient se laver les mains, il y a du stockage. Là, cette petite pièce en panneau sandwich avec des ventilateurs et une espèce de barre radiateur, c'est une étuve. C'est l'endroit où on vient poser nos yaourts. Tout à l'heure, je te disais qu'on faisait du yaourt. C'est là où les yaourts ils viennent étuver pendant 4 heures environ. Ils viennent se reposer là après après quelques étapes de fabrication.
Donc là, je t'emmène dans un autre couloir qui va desservir une autre pièce au fond. Là, c'est la pièce d'emballage conditionnement. C'est là où où la salarié vient emballer les fromages que j'ai fait en avant, couper de la tome, emballer des fromages, peser. Enfin, voilà, c'est la pièce qu'on dit emballage conditionnement. Au fond de cette pièce, et ben là, c'est la chambre froide. Donc tous les produits qui sont faits, on fait des produits presque tous les jours. Et ils sont stockés au frais et ils sont vendus deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, dans nos différents lieux de vente. Donc en fait, tu vois, il y a des caisses avec des fromages. Ce soir, ces caisses-là auront disparu. Ils seront dans des glacières là, qu'on va préparer aujourd'hui. Ils vont partir dans les lieux de vente. Et je refais le fromage que je suis en train d'égoutter aujourd'hui. Il sera vendu dès vendredi dans des magasins comme les Biocop ou dans nos autres amas, un marché de producteurs. Donc, tout au fond ici, donc on est dans une pièce un peu plus fraîche. Là, c'est la partie sas de sortie. C'est là où on stocke du matériel et que nous posons les glacières quand elles sont prêtes à partir dans nos lieux de vente. Okay. C'est un labo, il y a toujours, ce qu'on dit, une marche en avant. Le produit, que ce soit de la viande, du lait, bref, X, rentre là-bas et il est transformé là-bas, conditionné, emballé ici et il sort là-bas dans ces glacières.
Okay.
Et il est stocké au froid en attendant. Et la pièce maîtresse, la cave à fromage, il se trouve ici. Alors voilà, là c'est une pièce tempérée, on est sur environ 14 degrés avec une humidité, un petit mouchard d'humidité qui me dit à combien on est. Donc voilà, ici il faut qu'on ait une pièce assez humide. Et là quand tu regardes aussi, c'est contrairement au reste du laboratoire, quand tu regardes les murs, c'est de la pierre et de la chaux. Ça, ce sont des murs existants. Au sol, on a coulé une dalle en béton pour pouvoir bien nettoyer et passer avec des chariots à roulettes. Et là, de part et d'autre de cette petite pièce, eh ben, tu as des étagères en bois. On peut voir des meules de fromage qui vont de 2 à 4 kg avec des dates et des indications pour nous dire quand est-ce qu'elles ont été fabriquées. Et à partir de là aussi, savoir quand est-ce qu'elles vont sortir. Elles sont entre 2 mois et demi et 3 mois d'affinage pour les plus petites, 4 mois pour les plus grosses.
Pour l'y avoir goûté l'autre jour, waouh.
J'essaie de retravailler sur quelques projets de fromages différents. Voilà ce qu'on voit là. C'est pas écrit. Ah si, expérience race. Alors ça c'est des fromages. Des fois je me fais des essais. C'est des expériences raclette là. Type recette raclette. Des fois j'aime bien faire des essais comme ça. Moi j'ai essayé des types Saint-Nectaire. Enfin voilà, des fois. Quand tu fais un peu de fromage et que tu sais comment ça se fait, des fois tu te laisses proposer aux gens un peu de trucs sympas de temps en temps. À Noël, souvent ce qu'on fait, même presque tous les hivers, on propose une tome fumée pour mettre sur la table du repas. Voilà.
Et on sent la passion, je t'accompagne parce que tu as du boulot.
J'aime beaucoup. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Je te disais que je me sentais pas comme un technicien. Puis je suis curieux, j'étais pas fromager avant. Je compte faire, j'aime ce que je fais, j'essaie de faire des fromages qui plaisent, enfin en tout cas j'essaye. Oui, je te disais, une fois que j'ai pris du plaisir, que j'ai rencontré quelques gens qui étaient dans les fermes et qu'on m'a laissé aussi faire un peu de crête, voir comment c'était le fromage, j'ai été faire mon petit tour, visiter quelques fermes où ça pratiquait la transformation laitière avant de me former, avant d'aller prendre du cours. Quoi. Voilà comment c'est arrivé. Et ensuite, une fois installé, à la ferme là dans le Gaec, j'ai fait quelques formations qui sont proposées dans les campus agroalimentaires, des formations qu'on dit courtes, c'est 3 jours sur le 3 jours sur les pâtes pressées de TikTok, 2 jours sur le truc camembert, sur le beurre, le yaourt, voilà, j'en ai fait tout un tas comme ça. Voilà, c'est des voyages qui m'ont aidé un peu à rencontrer des fromages et des fromagers et des fromagères. Et après, j'ai fait un peu ma petite sauce à moi, mes petites recettes inspirées de ce que j'avais vu chez les autres. Et le jour où j'ai utilisé cette grosse cuve de 300 litres, j'étais un peu impressionné par elle déjà. Et je ne savais pas vraiment, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. C'était tellement énorme, j'avais plein de lait à ma disposition. Et là, j'ai compris que c'était pas... Enfin, là, c'était parti. Enfin, tu te dis, allez, faut y aller, quoi. On va sauter du coq à l'âne. Avant d'aller faire à manger, parce qu'après, je vais aller faire à manger. C'est mon jour de repas. Pendant que le repas, lui, là-bas, il chauffe. Je reviens en fromagerie tous les mardis. Je commence à préparer les commandes de ce soir. Et l'égouttage se fait tout seul et après je mettrai ça dans la voilà.
Et le repas du midi, préparé tour à tour par les membres du collectif, est là encore un moment chaleureux. On se sent en famille, on parle de tout, on teste, on goûte à toutes les productions. Ce jour-là, ce sont les galettes fabriquées par Nolwenn et Christine. Farine de sarrasin, de la ferme, bien évidemment.
Est-ce qu'on ne se lancerait pas une team galettes soufflées?
C'est bonne.
Ouais.
Mais je pense qu'elle est
bonne. On aura un sèche-mois, du coup, tu l'as... Et on fera la variété qu'on veut.
Ah oui, en plus, il y a ça.
Parce que la variété de sarrasin, ça peut changer.
Ah oui, ça change.
Ouais.
Ah ouais, ouais.
Il y en a un, c'était laquelle qu'on cultive.
Tibilin ou Tibili ou un truc comme ça.
Tous les sarrasins sont différents.
Hein. Ben ouais.
Même à travailler. Hein.
C'est pour ça, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Quoi.
Ouais, ouais.
Bon, après là, celui avec qui nous les triche et tout ça, et qui en récupère une partie, il veut une variété spéciale parce qu'en fait, c'est des grosses graines pour, et ça évite qu'il y ait des graines de datura qui sont mélangées dedans.
Bah oui, oui.
Et là, il y a un risque avec la datura, je pense, plus prononcé.
Parce que du coup, le sarrasin que vous cultivez ici, après, il passe chez un prestataire.
Pour le séchage.
Ah oui, d'accord.
Là, tu dois sécher le sarrasin systématiquement.
La crêpe beurre sucré, ça me fait penser au
pennon.
Ouais, les trucs.
La crêpe.
Les petites crêpes
qu'il
y a dans le nord de la France ou au Pays-Bas. Et en fait, ça, le goût, c'est à peu près comme les pennon.
Ouais,
ouais. Ou il y a aussi un peu de farine de sarrasin, donc normalement, dans la recette traditionnelle.
Mais moi dans ma recette de crêpe.
Je suis pas contre un petit spa.
Enfin, 900 grammes de sarrasin, de farine blanche et 100 grammes de sarrasin. Alors, les premières impressions.
Ah, une galette au sucre là.
Il n'y a pas assez de beurre encore.
T'as fait
Ah, je vais peut-être faire ça là, moi.
On peut en faire une deuxième.
Allez, mets celle-là de côté parce qu'elle est vraiment...
Ça, on va dire que c'est moi encore, non ?
Non, non.
C'est la 18e qui est à moi.
Je t'ai loupé.
J'en ai fait trois, mais elles ont décrété que toutes les ratées, c'était les miennes. Sauf que j'en ai fait que trois, donc à un moment donné, ça va plus, quoi.
Ah, t'étais en minorité, Maxence.
Bah ouais, ouais.
Du coup, vous avez fini votre journée galette, Christine ?
Ah bah oui,
c'est bon.
Oui, okay. Bah oui, oui.
Ça marche. Vous préparez un petit panier de fromage,
ouais, c'est ça, ça va lui faire plaisir.
Non,
c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et
si, ouais.
Tu manges tous les fromages ?
Ah oui, je mange.
Yaourt aussi ?
Oui, oui, tout. Mais pas donner.
Non, vous faites
pas.
C'est sain aussi ?
C'est un plaisir de
venir. Oui, je sais. Moi, ça me fait plaisir de partager.
Et c'est pour que ça le reste.
Non, mais comme tu viens pas souvent, ça reste.
C'est pour que ça reste un plaisir de venir.
Et comme tu viens pas souvent, ça me permettra de trapper nos fromages.
Oui.
Et ce jour-là, je repars moi aussi avec mes galettes et mon fromage. Le respect de la terre, du vivant, la magie du collectif, le don de soi et le combat autour de ses idéaux. Autant de choses que l'on retrouve dans les mots, la poésie de Saul Williams, l'artiste choisi par Robert Jean, maraîcher et fondateur lui aussi du GAEC.
Because of diseases, down for some ignorance. Chemicals and feces, down for some ignorance. Computers delete us, down for some ignorance. Don't care how they treat us, down for some ignorance. Fresh on the streets and I'm down for some ignorance.
Alors.
Bah, je vais m'installer à l'intérieur, comme ça je vais trier les courges en même temps.
L'intérieur, c'est ici, là ?
C'est l'intérieur, ouais. C'est ici qu'on prépare et on stocke tous les légumes. Mmh. Et on prépare les commandes, bah, donc du coup, principalement, on prépare les légumes avant les distributions des paniers.
Qui partent pour... Alors ce soir, c'est les restes de la semaine ?
Ouais, les restes de la semaine à Laval.
Et le bon plan ?
Et la map du bon plan à Andouillé. Okay. Et on a aussi un petit dépôt de légumes, de panier et d'autres produits aussi, et les autres produits aussi, dans le bourg de Montflour.
Ce soir aussi ?
Ce soir aussi.
D'accord.
Donc quelqu'un va aller le déposer, et puis après, Un autre camion va à Laval pour les restes de la semaine et Marco va aussi avec une autre voiture livrer la meuble du Bon Plan.
D'accord. Et les petits paniers, ce sont des commandes en fait qui sont faites ici directement ou
non, ou c'est le marché. Non, c'est les gens qui commandent de semaine en semaine.
D'accord.
Les personnes commandent de semaine en semaine. Donc là, c'est la pièce où on stocke les courges et les patates douces. Chaque légume a un peu son idéal de conservation. Et là, ici, c'est légèrement chauffé à 10-12 degrés. Et c'est plutôt sec.
Alors là, je vois plein de sortes de courges. Quels légumes faites-vous en fait là
sur la ferme?
Sur la ferme.
Alors à peu près tout. Les légumes de saison, quasiment tout.
Ouais.
Ça va des classiques, pommes de terre, carottes, poireaux, salades, tomates, l'été, à des choses qui aujourd'hui qui sont plus connues quand même, comme des patates douces, où on fait des petits tests, du persil rassis. Une assez large gamme, parce que du coup on vend que sous forme de panier. Quasiment que sous forme de panier. C'est un peu la particularité ici à la ferme, c'est qu'on fait pas de marché, à part le petit marché qui est dans le bourg du village. Donc à part à Noël et les deux semaines autour des vacances de Noël et le 15 août, on fait des paniers tout au long de l'année. 160 par semaine à peu près.
160 paniers par semaine.
Ouais.
Alors donc, vous les vendez à quel prix? Mais vous avez un petit peu de tout donc, dans vos paniers?
Eh bien ouais, en fait, on a des formules petit panier, gros panier, enfin plus grand panier. Et en fait, ce n'est pas un prix fixe. On a voulu beaucoup de souplesse dans nos manières de vendre. Et du coup, on a aussi de la souplesse dans la manière de faire nos paniers. En fait, on a des petits paniers qui sont entre 10 et 14 euros, on va dire, suivant la saison, suivant le temps qu'on a eu à préparer le lundi et mardi. Donc ça nous permet d'avoir un peu de marge de manœuvre tout au long de l'année pour quand quelque chose marche mieux, quand quelque chose marche moins bien. Et les grands paniers font à peu près entre 16 et maximum 20 euros, quoi.
Alors, que trouve-t-on globalement? Un petit peu de tout, ça veut dire quoi?
Eh bien, on essaie d'équilibrer un panier, d'avoir un truc un peu genre salade toutes les semaines. Et puis d'avoir, y a une base été, une base hiver, on va dire, très classique. Hiver, pommes de terre, carottes, poireaux, on va les retrouver quasiment toutes les semaines dans les paniers. Et puis l'été, c'est courgettes, tomates, salades. Ça, c'est souvent une base de 3-4 légumes. Dans la saison, c'est un peu toujours la même. Et puis, il y a 2, 3 ou 4 légumes qui changent chaque semaine, quoi. En fonction de la saison, en fonction de nos récoltes. Et donc, c'est une surprise, plus ou moins une surprise, toutes les semaines pour les consommateurs, savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir cette semaine dans les paniers. Par contre, et ça, c'est surtout au reste de la semaine, mais on commence un peu aussi à la meuble du Bon Plan. Les gens, ils ont aussi la possibilité de nous prendre des légumes en vrac. On essaye de mettre toutes les semaines un peu tout ce qu'il n'y a pas forcément dans les paniers, mais en plus, quoi.
Ça fait partie du contrat amapien, on va dire, je vais avoir les légumes qu'il a, et c'est ça, en fait, l'idée.
C'est ça.
J'achète un panier, mais voilà,
on sait,
courte.
On ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait, le système panier, pour le maraîcher, c'est super, parce qu'on vend une grande quantité de légumes en très peu de temps. Enfin, on bosse beaucoup. Ça permet de travailler un peu moins, quoi. Parce qu'on dans un très court laps de temps, on vend beaucoup de paniers. Donc au niveau organisation et au niveau temps de travail, c'est quand même pas mal les paniers. Puis ça fait profit à l'emploi local. Nous sur la ferme, pas que sur le maraîchage, mais sur toute la ferme, on est 7 à travailler sur moins de 50 hectares, quoi.
Et ça fait rêver, hein, tous vos petits légumes là.
Et bah ouais.
Ça fait rêver. Oh. Knowledge of the infinite, even if you got it just a little bit. Soon as you feel the ground start shaking. All your sleeping dogs start waking. Baby cries through the concrete. Genocide, lost a breath of life under God's feet. Genocide of the angels, even murdered instruments, trumpets. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais là?
Eh ben là, je suis en train de trier des oignons.
Alors là, je peux te poser la question. Comment es-tu arrivé dans cette aventure du GAEC Radio-Info?
Là, moi, j'y suis depuis le tout début. J'avais un petit jardin où je m'expérimentais à l'agriculture et à la permaculture. Hein. C'était au tout début. J'ai rencontré plein de gens ici. Je suis presque de la Mayenne, quoi. Je suis là depuis tout petit. Et j'ai connecté avec plein de gens dans les milieux militants, contre les OGM, contre la pub. Et du coup, il y avait tout un petit réseau de personnes un peu de mon âge, principalement quand même, qui étaient là-dedans. Et on avait envie de plus de concret, plutôt que de dénoncer tout ça, on avait envie de faire aussi. À la fin de mes deux années d'auto-formation, on va dire, j'ai lancé un petit appel dans les réseaux du coin pour savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés à réfléchir sur un projet collectif en Mayenne à la campagne. Et ça a assez bien répondu. C'était en 2008. Et le groupe qui était plus intéressé par un projet agricole, qui entre-temps avait fait un BPREA à Laval, ont continué, mais que du coup sur un projet agricole. Et en décembre 2009, on visite la ferme ici. Et on tombe sous le charme, parce qu'elle est très très belle, elle était assez préservée. On cherchait une ferme avec des haies, et puis elle était idéalement située entre Laval et Mayenne, le long de la Mayenne, le long du halage. C'était dans nos tout premiers critères de sélection d'un lieu, c'était ça. Donc voilà, et en plus très joli, avec un peu de foncier, voilà. Et donc, ça, c'était fin 2009, et en 2010, on a passé toute l'année à passer toutes les différentes étapes d'une installation agricole. Donc là, c'était une installation aidée avec les DJA, les dotations jeunes agriculteurs, pour du coup favoriser l'installation des jeunes.
Est-ce que vous arrivez à bien en vivre au moins ?
On ne roule pas sur l'or. L'agricole, c'est pas que produire de la nourriture, quoi. C'est aussi s'occuper d'une ferme, c'est s'occuper du paysage. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas rémunératrices. Et qu'on est dans des systèmes où en vente directe, mais on est quand même un peu en compétition avec de la nourriture produite à bas coût, avec des gens qui sont parfois employés dans des conditions pas terribles. Ça fait des produits alimentaires pas très chers. On est face à ce truc-là, et les gens, quand ils voient le kilo de pommes de terre à quelques dizaines de centimes en grande surface, bon, c'est pas en bio, mais ils se disent, pourquoi vous la vendez à 1,80€, quoi. Pas tout le monde, mais ça arrive quand même. Et puis je peux comprendre aussi, quoi, que c'est plus cher et on touche pas toutes les tranches de la population, quoi.
J'ai l'impression que vous vivez un peu, vous avez construit votre utopie en fait.
Mais oui, on essaye de construire quelque chose, puis c'est quelque chose qui est constamment en cours de réflexion. Et puis on a essayé de créer un environnement de travail où on a quand même du temps libre. Et nous, même si on n'est pas un 35 heures, on n'est pas non plus un 70 ou plus d'heures par semaine. On voulait faire une large diversité de nourriture pour les gens. Mais aussi en nous respectant nous, en essayant de pas trop travailler, quoi. Je suis assez content quand même parce qu'on y arrive à peu près, quoi, à pas trop travailler. Même si c'est un travail physique, et moi quand je vois, je me dis 60 ou plus, je sais pas si je serai encore en capacité de faire ça. Je suis pas sûr. Mais pour l'instant, à chaque printemps, souvent on a un petit creux de motivation dans l'hiver, mais à chaque printemps, la motivation revient, tout comme le soleil.
Les fleurs.
C'est ça. Et la nature qui se réveille.
J'habite un désastre sous la colère des dieux, où le monde doit s'éteindre pour qu'on ouvre les yeux, et le vin à la bouche, et le cœur sur le pieu. On fera vœu de renaître de quelques cendres de feu. J'effeuille les corolles de ce qu'on veut de la vie, un peu de vent sur la peau, les caresses d'une fille, où s'envoler tout là-haut pour graver l'équinoxe, être un arbre écrivain en s'écorchant l'écorce. Mais tout ça s'est cassé en un éclair coincé sous une charte de béton armé. Les enfants, le solstice, c'est dans longtemps. Mais longtemps, c'est maintenant.
Mes enfants, le solstice, c'est dans longtemps. Mais longtemps, c'est maintenant. Ces mots de Gaël Faye nous montrent qu'il n'y a pas d'utopie, que tout est possible si l'on s'en donne les moyens. Dans le prochain épisode, je continuerai la visite du GAEC, Radianco, et le chemin des consommateurs en ville, dans vos villages. Près de chez vous, il y aura certainement une AMAP, un marché de producteurs locaux. Faire des choix, prendre de bonnes résolutions en 2025, suivre la voie des colibris et rendre ce monde vraiment meilleur, ne serait-ce que dans vos assiettes. C'était la voix du colibri. Pour suivre la voix du colibri, la voix VOIE, c'est en podcast sur l'autreradio.fr bien sûr, mais aussi sur lavoixducolibri.org ou encore sur Facebook, Spotify et Instagram. À bientôt.